السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous sommes bientôt à la fin du mois de juillet, à la fin du mois de Rajab aussi. Il y a déjà un parfum de vacances dans l'air. Il y a les gens qui se préparent pour aller en vacances, pour consacrer quelques semaines à leur famille. Mais nous sommes également dans une phase intermédiaire où nous sommes en train de vivre les derniers jours du mois de Rajab. Et le mois de Sha'ban va certainement commencer d'ici quelques jours et se pointera ensuite le mois Mubarak du Ramadan. Avec ces deux événements, il y a un troisième qui est un peu plus d'actualité, c'est la fin de l'année scolaire 2009-2010, avec le résultat depuis quelques jours des examens qui ont été passés par les lycéens et les étudiants à l'université. Et nous pouvons que nous réjouir de voir un taux de réussite appréciable à l'aide de la Réunion et de la communauté musulmane, une quantité de jeunes qui ont passé cette épreuve du baccalauréat et qui ont réussi, alhamdoulilah, avec brio, cet examen de passage. Alors nous adressons certes nos félicitations à ces personnes qui ont réussi donc cet examen. Et comprenez bien, mes chers frères en islam, que si nous adressons nos félicitations à ces jeunes bacheliers, ce n'est pas comme des étudiants qui s'adressent mutuellement des félicitations. Ce n'est pas comme un professeur qui va féliciter ses élèves. Autrement, quel est l'intérêt religieux de le faire sur un minbar? Lorsque nous félicitons ces jeunes étudiants qui ont réussi face à cette épreuve dans les deux sens du terme, nous devons les remercier à travers deux points essentiels. Et ces deux points, nous ne le retrouverons pas dans le discours mondain, dunyawi. Premièrement, il est important de rappeler ce jeune lycéen, ce jeune étudiant qui a réussi son examen, qu'il a réussi uniquement par la grâce et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas par ses révisions, ce n'est pas par les cours qui lui ont été prodigués par ses professeurs ou ses annales du bac, c'est uniquement par la grâce et la clémence d'Allah qu'il a eu la réussite dans cet examen. Le deuxième point sur lequel nous devons insister pour que ces félicitations soient également profitables sur le plan spirituel pour ce jeune étudiant, c'est nous devons le rappeler qu'une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé son aide à une personne qui le sollicitait, alors cette personne se doit de se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, de faire preuve de gratitude. Et quand on parle de gratitude, d'être reconnaissant, ce n'est pas que dans la réaction immédiate. Ce n'est pas que lundi j'ai les résultats à 8h30, j'ai mon bac et je vais faire Zohar, Asar, Maghrib, Isha, Jamaat et mardi je suis déjà en boîte avec mes amis. Ça, ce genre de reconnaissance est sans réel intérêt. Lorsqu'on parle de reconnaissance, c'est qu'il y ait un changement palpable dans ma réaction, dans mon comportement avec istiqama, c'est-à-dire à long terme. Et comment vraiment le musulman remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a aidé, que ce soit pour l'épreuve du bac, que ce soit pour une licence, que ce soit pour obtenir un poste de travail, quel que soit le cas de figure. On peut analyser notre cas dans les moments où on avait besoin d'Allah et qu'Allah nous a aidé, on peut calquer ça à travers l'exemple qu'on est en train de donner. D'une manière générale, un musulman qui a eu l'aide d'Allah après une situation de stress où il avait besoin qu'Allah lui accorde son aide, ce musulman, premièrement, il doit reconnaître, comme on a dit tout à l'heure, que c'est Allah qui lui a accordé son aide. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mes révisions, ce n'est pas mon intelligence. Et on a une illustration parfaite de l'histoire des trois personnes malades chez les Banu Israël. Il y avait quelqu'un qui était chauve, l'autre lépreux et l'autre aveugle. Allah Ta'ala lui avait accordé la santé et beaucoup de bien. Et lorsque les anges sont venus voir ces gens sous l'apparence d'être humains, ils les ont demandé, comment cela se fait-il que maintenant vous avez tous ces biens, vous êtes devenus riches? Et deux parmi eux, entre autres le chauve et le lépreux, ils ont répondu, ça on a travaillé pour gagner ça. Ça c'est, on pourrait dire, la sueur de mon front. Et Allah Ta'ala était tellement mécontent de leur réaction ingrate
Ils n'ont pas reconnu que c'est Allah qui m'a aidé quand je n'avais rien. Allah m'a tout donné, qu'Allah Ta'ala a repris ses bienfaits. Tandis que la troisième personne, l'aveugle, a dit que je n'avais rien. En ce sens, j'étais malade, Allah m'a redonné ma vue. Et Allah Ta'ala m'a accordé des bienfaits de ce monde. Et Allah Ta'ala était satisfait de la réaction de cette personne. Donc, premier point, je me dois d'être reconnaissant vers Allah, de reconnaître que c'est Allah et uniquement Allah qui m'a accordé son aide dans cette situation où j'avais grandement besoin de lui. La deuxième preuve de reconnaissance, de gratitude envers Allah dans cette situation, c'est d'accomplir des bonnes actions en signe de gratitude pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas adopter l'attitude de ceux qui n'ont pas la foi, que lorsqu'ils ont eu leur résultat du bac ou autre chose, ils vont le fêter en boîte, ils vont le fêter avec des amis dans l'insouciance totale. Ce n'est pas là, mes chers frères, la réaction d'un musulman. Quelle preuve d'ingratitude, on dit au conditionnel, que ce jeune qui ferait doua pendant 10 jours ou 15 jours avant les épreuves, qui faisait tahajjud tous les jours, le ishraq tous les jours avant d'aller aux épreuves, qui sollicitait les doigts de ses parents en permanence, qui venait en salat avec jamaat tous les jours, dans le but d'avoir l'aide d'Allah, et qu'une fois Allah lui a accordé sa nusrat, son aide, alors il abandonne ses pratiques. Ça, c'est une réaction, c'est le summum de l'ingratitude, mes chers frères. Donc la troisième chose, la troisième réaction que le musulman doit avoir et que le non-musulman ne peut pas comprendre, c'est je ne dois pas délaisser les actions que j'avais commencé à faire dans les moments où j'avais besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actions qu'on vient de citer, les du'as, les invocations, la confiance en Allah, la capacité de se détourner du haram. Imaginez bien un jeune musulman qui doit passer son bac. Les deux samedis avant le bac, il ne va pas aller en boîte. Il ne va pas aller faire des bêtises avec ses amis. Parce qu'il sait qu'il est dans une situation où il aura besoin d'Allah. Il doit monter, passez-moi l'expression, une patte blanche, pour que vraiment Allah Ta'ala accepte son doua. Maintenant, ce jeune doit continuer dans cette lancée et il doit faire preuve de gratitude sur un long terme et non pas en réaction immédiate. Quatrième manifestation de choukr, de gratitude envers Allah, c'est de savoir que lorsqu'Allah me donne quelque chose et que je me montre reconnaissant, si j'ai respecté les trois points, je me montre reconnaissant, Allah Ta'ala m'accordera encore plus. La in shakartum la azidannakum. Lorsqu'on remercie Allah, Allah Ta'ala accorde plus. Il y a une citation magnifique de Ka'ab al-Ahbar, qu'on dira en français parce qu'on n'a pas énormément de temps. Il dit en ce sens, lorsqu'Allah Ta'ala accorde un bienfait à un être humain dans ce bas monde et que cette personne se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawadda'a biha lillah, et il fait preuve d'humilité. Il ne se dit pas que j'ai gagné, c'est moi, je suis intelligent. Non, c'est pas la grâce d'Allah. Il fait preuve d'humilité. La même humilité dont il faisait preuve avant les épreuves. Preuve avant les épreuves. Lorsqu'il agit comme ça, Allah Azza wa Jal lui accorde encore plus de bienfaits dans ce monde et Allah augmente son degré dans le akhirah. Parce que nous savons, mes chers frères, que ash-shukru ala ni'am, c'est un ibadah. Le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour un bienfait, en soi, c'est déjà un acte d'adoration. Cinquième point. Cet étudiant, ce jeune homme, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin qu'il avait envers Allah Azza wa Jal et qu'Allah lui a accordé son aide, il doit savoir que se montrer reconnaissant, cela se manifeste de trois manières. Ash-shukru bil qalbi, bil lisani wa bil jawarih. Ce n'est pas que je dis alhamdulillah, 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 je ne vais pas faire tasbih d'alhamdulillah et j'aurai déjà remercié Allah. Non. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit que le musulman qui a eu l'aide d'Allah dans une situation difficile, il se montre reconnaissant par le cœur. De quelle manière? Que son cœur doit être rempli de bonnes intentions. Que mon cœur soit vidé de toute envie de péché. J'avais tellement besoin d'Allah. Allah m'a aidé. Comment maintenant je peux volontairement, délibérément, décider dans mon cœur que je fais telle ou telle chose qui va provoquer le courroux, qui va provoquer, pardon, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle ash-shukru bil qalbi. Remercier Allah par la langue, bien sûr, en faisant des doigts, shukrillah, alhamdulillah, ça, tout le monde le sait. Et le dernier, ash-shukru bil jawarih, remercier Allah subhanahu wa ta'ala par nos membres, par nos actions, de quelle manière que le bienfait qu'Allah m'a accordé, je l'utilise exclusivement dans l'obéissance d'Allah. Et en aucun cas je vais faire preuve d'ingratitude ou je vais désobéir à Allah après l'ouverture, après al-fath, après l'aide qu'Allah Ta'ala m'a accordée. On terminera avec un dernier point pour vraiment cadrer comment est-ce que le musulman se montre reconnaissant envers Allah dans ce genre de situation. Surtout, ce musulman ne doit pas agir comme il est cité dans plusieurs versets du Coran, lorsqu'il y avait des mushrikines, des polythéistes, dans un bateau qui était dans une tempête, et qu'ils étaient certains qu'ils allaient être noyés par la tempête, détruits. Là, ils invoquaient Allah avec sincérité. وَإِذَا رَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et lorsque Allah leur accorde son aide, et ils retournent sur la terre sains et saufs, qu'est-ce qu'ils font? فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Là, ils se montrent réticents. C'est-à-dire qu'ils ne font pas preuve de reconnaissance comme ils auraient dû le faire après avoir vu de leurs propres yeux comment Allah Azza wa Jal leur a accordé son aide. Et ça, de ce verset, il est écrit que cette personne, c'est le grand traître et le grand ingrat. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Donc, le musulman, en aucun cas, ne doit agir comme cette personne qui, après avoir eu l'aide d'Allah, alors qu'il a sollicité Allah pendant des semaines et qu'Allah lui a accordé maintenant son aide, il ne doit pas, un, abandonner les bonnes pratiques et deux, retourner faire ses mauvaises habitudes. Et il doit reconnaître que c'est Allah qui lui a aidé. Et, mes chers frères, la leçon principale à retenir pour ces jeunes et pour n'importe quelle personne dans cette situation, c'est quoi? C'est que cela doit être une leçon de iman pour nous. Et c'est une leçon de iman extrêmement enrichissante pour ces jeunes de 18, 19 ans qui, certainement, pour la première fois de leur vie, ils ont dû faire doigt avec autant d'intensité auprès d'Allah Azza wa Jal. Je pense qu'avant l'âge de 18 ans, avant de passer le bac, un jeune n'a pas eu besoin de faire autant de doigts. Il n'a pas eu un motif de stress, de souci aussi important que ce baccalauréat. Mais il doit retenir que dans toutes les situations de ma vie, que ce soit pour les études, que ce soit pour mon travail, un embauche, pour mon mariage, pour quelles que soient les situations de ma vie, ma réaction première c'est quoi? C'est je m'en remets à Allah. Mon cœur doit être uni avec Allah. Je dois développer dans mon cœur at-tawakkulu 'ala Allah, la confiance totale en Allah Azza wa Jal. Je dois bien réaliser que je ne peux rien faire uniquement par mes biens ou par mon intelligence. Et la troisième leçon qu'on doit retenir, c'est qu'une fois qu'Allah m'a accordé son aide, je me dois d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Reconnaissant comment? Par les cinq ou les six points qu'on a expliqués, qui sont vraiment les signes de choukr, de reconnaissance du musulman. Et un second point, on ne peut pas se permettre par rapport au temps. C'est pour qu'on comprenne bien que qu'un jeune homme, qu'un jeune musulman travaille, obtient une bonne situation dans la vie, cela n'est aucunement incompatible avec l'islam. On doit bien comprendre quelque chose, mes chers frères, que nous avons une religion qui est magnifique. Je peux être musulman, je peux avoir un bon travail, je peux avoir une très belle épouse, je peux avoir une merveilleuse famille, et tout en me rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais été dit que pour devenir un bon musulman, il faut absolument faire des études de alim. Il n'a jamais été dit que pour devenir un très bon musulman, il faut absolument devenir mufti ou cheikh al-hadith. Non. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'il n'y a pas d'ascétisme dans l'islam. Je n'ai pas besoin de tout quitter pour me consacrer à Allah, pour qu'Allah soit satisfait de moi. Chose qui n'existait pas forcément dans les autres religions. Ce qui est magnifique. Je peux être un médecin et un bon abid lillah. Je peux être un avocat, je peux être un commerçant, je peux être un comptable ou autre chose, tout en étant un excellent adorateur d'Allah, un serviteur sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment la religion du juste milieu. Il y avait une petite anecdote de Omar ibn al-Khattab. Une fois, après la salat de Jum'ah, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il voit des gens qui sont assis dans la mosquée. Là, assis comme ça, sans rien faire. Omar dit, qu'est-ce que vous faites là? Ces gens disent que, nahnul mutawakkilun 'ala Allah. Nous faisons tawakkul 'ala Allah. On ne travaille pas, nous. Nous, notre yaqin est en Allah. Aïe, aïe, aïe. Ce qui va nous tomber, c'est Omar ibn al-Khattab. Il fait quoi, Zad? Omar a dit, la yaq'udanna ahadukum. On va dire en français, quoique la citation est magnifique, que je ne vois personne s'asseoir dans la mosquée, comme ça, sans rien faire, et dire que Allahumma rzuqni, demander, oh Allah, accordez-moi ma subsistance, oh Allah, accordez-moi les bienfaits, qu'il sache. وَقَدْ عَلِمَ. Et vous le saviez, أَنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً. Que du ciel ne tombe pas l'or et l'argent. Sachez que du ciel ne tombe pas l'or et l'argent. Qu'on comprenne qu'Allah Ta'ala a établi une sunna dans cette ummah, dans toutes les communautés, que le musulman se doit de travailler, de faire des efforts pour obtenir son rosi. Ma confiance est dans Allah, oui. Et qui c'est qui avait plus confiance en Allah qu'Omar ibn al-Khattab? C'est ni vous ni moi. J'ai confiance en Allah, mais en même temps je sais qu'Allah a organisé la situation, le mujtama, de la sorte qu'en travaillant, je peux obtenir mon rosé halal. Il y a pas mal de hadiths qu'on aurait aimé citer, dans lequel le prophète alayhi salam explique que c'est un bienfait qu'un musulman travaille de manière licite et qu'il obtienne son rosé halal. Il y avait d'autres points qui auraient été assez intéressants. Hein, ça c'était plutôt à l'attention des parents, parce que très souvent, lorsqu'on fait des discours pour les jeunes, on est toujours là en train de marteler les jeunes. Oui, les jeunes, attention, vous êtes dans des situations qui là, mais très souvent, il faut parfois rétablir un peu l'équilibre et faire un rappel envers les parents également. On aurait aimé parler de ses parents, un parent qui a donné autant de soucis dans la période d'examen. Pour lui, il faut que mon fils gagne le bac. Sur Facebook, il y a un jeune qui m'écrivait juste avant les résultats, dit ce soir, je vais savoir, non, demain, je vais savoir si j'ai encore un lit pour dormir chez moi, oui ou non. Je faisais comprendre que si je n'ai pas le bac, mon papa me fout dehors. Autant moi, en tant que papa ou une maman, elle se fait du souci pour la réussite de ses enfants. Sur le plan scolaire, nous devons de faire encore plus de soucis pour la vie éternelle de mon enfant. Comment peut-on imaginer un papa qui vient à la salatul fajr et qui laisse ses enfants dormir? Il dit quoi? Banane encore petit. Comment peut-on imaginer une maman qui laisse sa petite fille de 8 ans devant s'habiller comme n'importe qui, comme quelqu'un qui n'a pas la foi, et elle dira que ma fille est encore petite? Ben, la fille encore petite, à 12 ans, elle s'habillera comme ça, à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et quand arrive l'âge de boulot, vous dites, maintenant, ma fille, il faut s'habiller de manière pudique, il faut se couvrir les jambes, se couvrir les avant-bras. Ben, cette fille-là, qu'on a grandi dans ce mode de vie, n'attendez pas qu'elle va nous obéir. Alors, ces enfants pour lesquels nous consacrons notre temps, notre rouh, même tout notre argent, toute notre attention, et nous avons donné à ces enfants l'objectif que tu dois réussir dans ta vie, tu dois avoir ton bac, tu dois avoir un bon travail. Il va intégrer ça, lui, cet enfant. Mais autant qu'il va l'intégrer, vous allez sortir de ses plans. En aucun cas, j'ai rappelé à mes enfants qu'après l'unicité d'Allah, pardon, il y a birrul walidain, le fait d'agir correctement avec mes parents. Ce qui fait que cet enfant à qui nous avons donné des valeurs uniquement dunyawi, quand moi j'aurai 80 ans, quand j'aurai ma retraite, est-ce que cet enfant-là, il sera à mes côtés? Est-ce que c'est un enfant qui va m'aider financièrement un jour quand je serai à la retraite? Est-ce que c'est un enfant qui va venir sur ma tombe faire doua pour son papa et sa maman? Est-ce que c'est un enfant qui va accomplir des actions de Isra les Sawab avec niyat que les récompenses vont pour ses parents? Mes chers frères, autant nous martelons les jeunes parfois que si vous désobéissez à vos parents, vous risquez telle conséquence au jour de Qiyamah. Mais dans l'autre sens, ça va aussi. Un papa et une maman peuvent obtenir le paradis par les actions de leurs enfants. Mais en même temps, ils peuvent être sévèrement questionnés le jour de Qiyamah s'ils ne se sont pas acquittés de leur devoir de parents. Kullukum ra'in, vous êtes tous des bergers, wa kullukum mas'oulun an ra'iyati, et vous serez tous questionnés à propos de votre troupeau. Man tawfiqillah billah, qu'Allah nous accepte, dans la possibilité de mettre en pratique. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursali, wa alhamdulillahi rabbil alamin.